Chapitre 8. Des vaches paissent dans un champ d'herbe grasse, leur queue battant l'air sans avoir l'air d'y penser. Plusieurs vallons se succèdent, qui découvrent de petits villages nichés au creux de leurs replis. Au loin se dresse un majestueux château fort, perché sur une colline. Quelques fermes, lovées à ses pieds, coulent des jours heureux, à l'abri de ses murailles. Château neuf, indique un panneau d'information touristique un peu plus loin. Au fur et à mesure que le train file vers le sud, le paysage change. La terre plane se gonfle comme sous l'effet d'une poussée intérieure, boule d'énergie qui tente de percer la croûte terrestre pour sortir au grand jour. Lyon marque la frontière entre deux territoires, celui du plat pays et celui des beaux reliefs. Une chaîne de montagnes barre la route au niveau de Grenoble et l'on plonge alors dans un univers fait de courbes et de montées, d'ombre et de lumière. Le long ruban de la vie défile en 2D devant mes yeux. Une fois encore, le film se déroule à l'extérieur, et moi, je reste assise à l'intérieur, de l'autre côté de la glace. Est-ce à dire que je suis passive face à tout ce qui m'entoure, telles ces vaches aux longs cils qui suivent du museau le passage du TGV? Et ce sale gosse qui n'arrête pas de bouger sur le fauteuil en face de moi. Qu'est-ce qu'elle attend sa mère pour le calmer? Il devrait y avoir des wagons spéciaux pour les couples avec enfants, afin que les autres passagers puissent jouir en toute tranquillité du paysage qui s'offre à eux derrière les larges baies vitrées et se laisser bercer par le ronron monocorde des rues roux sur la voie ferrée. Heureusement que personne ne lit dans mes pensées, je me ferais traiter de facho.
Steve, fais attention, mon chéri, tu viens de donner un coup de pied à la dame.
Ce n'est pas grave, je n'ai rien senti. Quel faux cul je fais quand je m'y mets. Plus qu'une heure et demie avant d'arriver à Marseille. J'espère que ma sœur sera bien là. Je m'enfonce dans mon siège et ferme les yeux. L'image de Philippe apparaît, droit comme un cierge sur le quai de la gare. Les 2 semaines qui nous séparaient du départ ont passé à une toute allure. Chacun occupé à ses différentes activités, on n'a guère eu le temps de consacrer l'un à l'autre. Pas un mot sur le bébé. Le chef de gare a sifflé et le train s'est mis doucement en branle. Philippe m'a envoyé un baiser au travers de la vitre, auquel j'ai répondu par un petit signe de la main. Il était content pour moi quand je lui ai annoncé que je partais voir ma famille. « Profite du bon air, repose-toi et reviens-moi en pleine forme, hein ?»« Et toi, ne te tue pas au travail et pense à t'alimenter de temps en temps. » Une vraie mère poule. La perspective de ces 10 jours me réjouit. Plus de clients chiants au téléphone, plus de stress, plus de métro ni de ciel lugubre. Avec un peu de chance, il pourrait y avoir de la neige pour que je puisse aller faire du ski. Ah mince, est-ce que j'ai le droit d'en faire? Quelle plaie! Mon ventre est encore aussi plat qu'un désert et je dois raisonner comme une personne malade. On verra ça plus tard.
Avignon, 3 minutes d'arrêt!
Ça y est, ça sent bon le sud. Avignon con! Le ciel est d'un bleu vibrant, pas un nuage à l'horizon. Regarde-moi ce pépé comme il est beau, avec sa veste en velours noir, ses cheveux blonds et ses bonnes joues rougies par le vent frais de l'automne. Presque, je l'épouserai. Il n'y a pas à dire, les gens d'ici ont des physionomies particulières. Un mélange de bonhomie paysanne et de décontraction méditerranéenne. À chaque extrême, cela donne des caricatures croustillantes. Un César échappé de la trilogie pagnolesque gueule à tue-tête d'un bout à l'autre du quai, heureux de retrouver son ami Estarque Figue revenu de Paris. Une Marie ronde comme une miche de pain d'Odeline sur ses courtes jambes à la rencontre de sa bru et de son petit-fils venu passer quelques jours chez Mémé. Yvonne, blonde comme la paille et cramée comme les blés, embrasse goulûment son fiancé, hissé sur la pointe de ses pilotis et le cul moulé dans une mini-jupe vert fluo. Gérard envoie des messages codés avec sa médaille en or qui réfracte les rays du soleil, le poil à l'air et les cheveux gominés. Un vrai régal pour les yeux. Le théâtre a envahi les rues, la populace nous joue la comédia dell'arte. Je me sens d'un coup plus vivante parmi ces gens trop humains, touchée par l'empreinte visible de leur histoire et du folklore de leur région. Paris, royaume de la mode et de toutes les extravagances, habille pourtant ses habitants d'un voile terne et gris qui les confond dans un anonymat standardisé. Là-bas, tous ceux qui travaillent se ressemblent. Ils portent l'uniforme en vigueur et un masque sérieux sur le visage. Ici, le soleil fait fondre la cire et révèle l'ossature nue et la chair crue. Les peaux tannées, ridées, fripées, bronzées, brûlées. Le grain de la photo s'épaissit. Clic-clac, je me rassasie d'images en attendant les bruits et les odeurs. Les remparts du vieil Avignon s'éloignent. Dernier bastion de sa résistance, le palais des papes, qui se taille une silhouette au couteau dans la lumière crue de midi. J'essaie de voler quelques miettes d'intimité aux maisons qui bordent la voie ferrée. Une nappe à carreaux sur la table de la cuisine. Une femme au balcon en train d'étendre son linge. Un jardinet en vrac où poussent des jouets en plastique et des tricycles rouillés. Ambiance de petite ville de province, oublieuse des nouvelles technologies, de la nette économie et de la course au profit. Les médias sont les prêcheurs d'une ère nouvelle qui dépasse bien des gens. Plus on s'éloigne du cercle concentrique qui entoure la capitale. Le tube cathodique envoie au cœur des maisons des messages cryptés sur la liberté en réseau, la connaissance universelle, l'abolition des frontières, l'amour à distance, le langage des signes. Plus le contenu est virtuel, plus les publicités sont abstraites et démagogiques. Que comprend César au web ? Qu'est-ce que cela change à sa vie ? N'oublions pas les vieux et les ploucs dans cette dite révolution. Aidons-les à rester branchés, en connexion avec les autres, à défaut d'être reliés à un serveur informatique. Les outils doivent servir l'homme et contribuer à améliorer sa qualité de vie, non à l'assujettir à des besoins superficiels. Qu'est-ce que je deviens philosophe sous ces latitudes ? C'est l'effet SNCF. Rien à faire, rien à dire, en position assise, l'esprit s'ankylose puis s'évade. On a finalement peu d'instants comme cela dans toute une journée. Une non-activité forcée qui nous oblige à penser, plus exactement où l'on s'oblige à penser, à faire fonctionner son cerveau, seul organe qui peut encore se mouvoir par-delà les couloirs du très grand Visslar. Car la perte de temps est mal vue de nos jours. Il faut toujours être productif pour soi-même ou pour les autres. Lire le dernier Philippe Solaire dans le métro, téléphoner de son portable pendant qu'on attend l'avion, remettre de l'ordre dans la maison dès que l'on a 5 minutes, et prendre une semaine de vacances pour profiter de régler tout ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Trier son courrier en retard, faire ses albums photos, renouveler sa carte d'identité, laver le dessus de lit, bref, des choses passionnantes. Le petit avortant en face de moi s'est enfin calmé, il dort. Sa mère l'y voici, captivée par les derniers malheurs de Céline Dion. La pauvre, elle est moche mais quand même elle a de la voix. Son mari est vieux et malade, mais il gagne des millions. Et ils arrivent même à avoir un enfant. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas de chance. Voici enfin la mer. Le train longe la zone industrielle de Foss, un remix de Mad Max sur fond de mer bleue. Sur la droite, en bordure du golfe, une immense boîte de conserve couleur rouille fume au milieu de nulle part. Le bassin portuaire abrite plusieurs sites de pétrochimie qui érigent autour de notre habitacle glissant un maillage dense de tubes enchevêtrés dans lesquels circulent des gaz sous pression. De loin en loin jaillit la flamme d'une torche. Un tunnel, une paroi rocheuse, et l'on débouche sans transition dans un décor de carte postale. Des maisons de pêcheurs au toit rouge forment des grappes colorées autour de l'église de l'Estac, joli petit village construit sur les pentes du chaînon calcaire du même nom. La terre environnante est aride et se déchire sur la côte en criques d'une blancheur aveuglante. Ce sont les calanques, accidents rocheux qui découvrent la nature dans sa violente beauté. La mer turquoise pénètre des vallées aux parois abruptes et brûlées qui renvoient au centuple la lumière du soleil et protègent ses occupants des rafales du mistral. Des touffes d'herbes s'échinent à pousser entre les pierres et les troncs de pins se tordent pour parvenir à s'extraire du sol. Union fatale de la mer, de la terre et du ciel. Vert, blanc, bleu. Respirer, nager, sentir. La vie se réduit parfois à des équations toutes simples.
Mesdames et messieurs les voyageurs, nous arrivons en gare de Saint-Charles, Marseille-Saint-Charles, terminus de ce train.
Le bout du voyage, ou peut-être le début. La gare grouille de monde. Une foule bigarrée, cosmopolite, curieuse. On sent le pouls de la ville qui bat, pas loin. L'effervescence d'une métropole teintée d'une certaine touche de nonchalance. Quelque chose qui ressemblerait au sud. Les gens circulent, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas d'objectif précis en tête. Certains se promènent, d'autres regardent le panneau des horaires. Les uns bavardent, les autres rigolent. On se croirait sur une place de marché ou dans la grande galerie d'un centre commercial. J'arrive au bout du quai. Pas de traces de ma sœur. Elle n'est vraisemblablement pas encore arrivée. J'ai les jambes lourdes et le dos en compote. Maudit train. Je cherche des yeux un endroit où me poser. Rien à l'horizon. Pas un banc, pas un bar minable au comptoir dépourvu de tabouret. La salle d'attente à perpète. Bon, il me reste toujours mon sac pour s'asseoir dessus. Marseille vide de transit. Les gens débarquent ici de toutes parts, mais n'ont pas le moindre siège à leur disposition pour se reposer et attendre leur train. On ne s'arrête pas à Marseille, en tout cas pas à la gare. On peut éventuellement passer la nuit dans le premier hôtel venu, en bas des grands escaliers qui plongent directement le voyageur dans la cité phocéenne. Juste en face, l'hôtel de Grenoble. Un petit endroit sympathique a priori. Ceux qui ont tenté l'expérience s'en souviennent encore. Ces couloirs sont encore plus agités qu'un hall de gare, et des contrôleuses en petite tenue vérifient toute la nuit la propreté des chambres et les billets de ces messieurs. Pas moyen de fermer l'œil. Dès le lendemain matin, on règle sa note et on s'enfuit. Les plus téméraires poussent l'aventure un peu plus loin et se perdent dans le labyrinthe des petites rues qui descendent jusqu'à la Canebière. Une terre d'asile au départ provisoire, puis définitive, pour les populations maghrébines qui ont recréé ici l'apparence de leur terre originelle. Plus pour longtemps. La mairie a de grands projets de réhabilitation et compte bien redorer son blason en plaçant dans ses quartiers du centre-ville des populations plus politiquement correctes et financièrement aisées. Quelle allure aura alors Marseille demain ? Celui de cette africaine au visage lisse et luisant entortillé dans un immense boubou multicolore ? Celui de ce vieux marocain qui déambule sans but apparent, les mains croisées derrière le dos et le visage éternellement bronzé comme s'il revenait des îles ? Ou bien celui de ce jeune cadre dynamique qui court pour attraper son train et rentrer dans son pavillon de banlieue du côté de Gardanne ou de Salon-Provence. Je sors de la gare. L'air est vif et la vue dégagée. À chaque fois que j'arrive en haut de ces majestueux escaliers en pierre blanche, j'éprouve toujours la même sensation, un avant-goût de grandes vacances. Mon regard plonge dans le vide vertigineux, dégringole les marches à toute allure, s'enfonce dans le boulevard d'Athènes, entre deux rangées d'immeubles anciens, salis par la pollution, et remonte comme un bobsleigh au-dessus des toits de la ville pour venir frapper de plein fouet Notre-Dame de la Garde et sa statue de la Vierge à l'Enfant, dorée et brillant de mille feux. Un sourd grondement s'insinue dans les moindres recoins de la ville et s'élève insensiblement jusqu'à moi. Le tumulte des automobiles et leur tempête de klaxons. On dirait qu'il se prépare un match de foot au stade Vélodrome ou un gigantesque mariage qui se met en cortège. Le cri d'un canard désobligeant derrière moi me fait sursauter. Saleté de bagnole, elle ne peut pas aller jouer de l'avertisseur plus loin. Une tête blonde émerge de la voiture. « Alors, sister, tu montes ?»